Dans le cadre de Culture Commune, organisée par le réseau des acteurs jeunesse de la Mayenne Rage 53, table ronde, la valorisation des compétences des jeunes dans l'éducation nationale et dans les structures jeunesse, quelle transversalité ?
Tout d'abord, merci d'être présent. Donc, on va commencer cette table ronde jusqu'à. Donc, on va avoir à peu près une heure à passer ensemble. Avec cette question qui va animer notre table ronde, tout simplement. La valorisation des compétences du jeune au sein de l'éducation nationale et des structures jeunesse. Quelle transversalité. On va aborder. Enfin, il y a différents cadres éducatifs pour la jeunesse qui lui permettent de développer des compétences. On a d'abord l'école où on développe un savoir un peu général. C'est les premiers endroits où on se confronte à l'autre. Puis l'enfant grandit, il devient jeune, on développe des intérêts plus ciblés. On rencontre ses pairs dans d'autres structures hors éducation nationale, des associations sportives, des maisons jeunesse, des centres sociaux, j'en passe, il y a un tas d'exemples. Donc à l'heure des enseignements transversaux et des socles de compétences, comment créer du lien entre les établissements scolaires, les équipes éducatives et les acteurs jeunesse d'un même territoire pour avoir une mise en valeur continue du jeune, de ses savoirs et de ses aptitudes. Donc autour de moi, pour animer cette table ronde, nous avons à ma droite Régis Cortesero, docteur en sociologie, chercheur et consultant. Nous avons Vincent Bonner à ma gauche, directeur pôle éducation et loisirs PEP 21 et aussi ancien professeur à l'éducation nationale. Yannick Poirier, qui se trouve là-bas, principal du collège Jean Rostand de Château-Gontier. Valérie Créton, principal du collège Jacques Monod à Laval. Cédric Maillet, sur encore plus ma gauche, qui est directeur du centre social Le Nulle Part Ailleurs à Cran. Et Laurence Lebras, qui travaille pour la CAF 53. Cette table ronde va avoir plusieurs parties. On va d'abord un peu parler des expériences locales de transversalité, de rencontre entre l'éducation populaire et l'éducation nationale, donc à travers différents témoignages des personnes que j'ai nommées. Ensuite, on essaiera de faire un point sur les freins et les leviers qui existent ou qui peuvent exister pour se faire rencontrer ces deux mondes. Et on consacrera une bonne demi-heure à l'échange. Donc je vous demanderai, si vous avez des réflexions qui vous viennent au cours de nos échanges ou des remarques, des questions, et bien de les garder dans un coin de votre tête et on vous donnera la parole juste après. Voilà, les micros circuleront. Donc vous aurez l'occasion de parler. Alors il existe déjà, je le disais, des expérimentations en Mayenne pour créer du lien entre scolaire et extrascolaire, dans la mise en valeur des compétences du jeune. Valérie Créton, vous avez expérimenté l'année passée au sein de votre établissement avec la participation d'un acteur extérieur lors des oraux du DNB, le diplôme national du brevet. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, nous présenter un peu ce qui s'est passé ?
Oui, tout à l'heure, donc, Monsieur Valex a évoqué les parcours éducatifs, donc je ne vais pas les reciter, mais ces parcours et d'autres objets, histoire des arts et aussi des projets interdisciplinaires qui peuvent être menés donc, tout au long, on va dire, des 4 années du collège, peuvent faire l'objet après de l'oral, donc du brevet des collèges. Et donc, pour le collège Jacques Monod, les élèves s'entraînent sur une première demi-journée. Et là, donc, on constitue des jurys et les acteurs jeunesse du quartier ont pu participer donc à ces oraux, à l'entraînement à l'oral, parce que l'examen en tant que tel est cadré et réservé donc au personnel enseignant. Donc là, l'objectif, alors ça s'est pas fait comme ça, bien évidemment. Si je reprends un petit peu le fil, moi, quand j'étais donc Nord-Mayenne, j'ai fait une intervention auprès du réseau Acteurs Jeunesse sur le Nord-Mayenne, sur les parcours éducatifs, pour expliquer ces 4 parcours et le socle commun des compétences et connaissances et de culture, voilà. Et ça a permis aussi de rencontrer, de se connaître, particulièrement aussi avec François. Et puis ensuite, moi, je suis arrivée effectivement sur Laval et on a mis en place une formation commune sur les parcours et aussi avec cet objectif de se connaître. Et ce qui ensuite a amené cette expérimentation que un éducateur, en l'occurrence c'était un éducateur, qui est venu donc en plus du jury, donc c'était un jury à trois, pour écouter le jeune et puis aussi échanger avec les personnels enseignants sur les compétences, sur les attendus aussi de cet oral. Et l'expérience a été intéressante et elle va se continuer parce qu'elle est, elle est lancée. Et ça permet effectivement des échanges, de se connaître et d'avoir une culture commune et en tout cas du vocabulaire aussi commun. Ça, c'est important. Voilà.
Ouais, on y reviendra sur cette question du vocabulaire en commun. Alors, cette expérimentation, vous parlez que ça s'est fait sur le temps long. Du coup, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Comment vous l'avez menée au cours de l'année avant d'arriver justement à la finalité, la participation au DNB?
Alors, je vous ai parlé de cette journée de formation parce qu'elle était... Alors moi, j'étais présente, mais pas toute seule. J'étais avec deux professeurs, une professeure d'histoire géo, éducation morale et civique et la professeure documentaliste qui sont aussi sont membres des jurys lors de l'oral du DNB. Et en fait, je dirais que naturellement, il y a eu des échanges sur nos pratiques, nos attendus, et les personnels se sont positionnés et ont tenté l'expérience. Et puis après, je dirais que les professeurs revenant de cette formation en ont parlé un petit peu et on a constitué après les jurys et ça s'est fait assez naturellement en fait. Et je crois que il y a obligatoirement une phase de connaissance importante parce que monsieur le directeur académique parlait effectivement de l'ouverture de l'éducation nationale et ça c'est vrai depuis je pense déjà quelques années. Mais pour effectivement faciliter ça, les échanges, il faut se connaître, il faut se faire confiance. Il faut aussi qu'on parle de nos vécus, de ce qu'on fait dans le quotidien auprès des jeunes. Et ensuite, on arrive effectivement à mettre ça en place, quoi. Voilà.
Alors, dernière question sur cette expérimentation que vous avez faite. Après retour de vos équipes éducatives et peut-être même de l'éducateur en soi, quel apport, qu'est-ce que ça a apporté en plus au moment de cette expérience? Est-ce qu'il y a eu quelque chose que vous avez identifié qui a vraiment été un apport pour le jeune, pour le coup?
Alors là, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, parce qu'en fait, on est sur quelque chose de nouveau. En tout cas, les acteurs, les personnes présentes ont trouvé ça intéressant parce qu'ils ont, ils ont assisté à un oral selon, une procédure, selon des attentes définies. Et puis, on trouvait ça plutôt intéressant. Après... je dirais que c'est un peu l'amorce, c'est un peu tôt. Quels indicateurs, effectivement. Je ne suis pas allée voir les notes, par exemple, le nombre de points pour les élèves concernés, mais pourquoi pas, effectivement, voir si effectivement ça a eu un effet ou pas. Après, je pense que ça demande du temps, de la confiance. Je souhaite que ça se développe, que ça devienne un peu plus, dans les habitudes. Voilà.
Ouais, un peu plus de manière installée, peut-être même institutionnelle. Ok, merci, merci Valérie Créton. Alors, je vais me tourner maintenant vers vous, Yannick Poirier, notamment pour parler de votre expérience au collège de Port-Briet, parce que vous êtes actuellement directeur principal à Jean Rostand, à Château-Gontier. Mais quand vous étiez à Port-Briet, donc toujours avec cette casquette de chef d'établissement, vous aviez mis en place des projets avec une association jeunesse du coin qui s'appelle Ça coule de source. Alors, même question qu'à Valérie Créton, en quoi ça a consisté cette expérimentation, cette mise en place avec des acteurs extérieurs à l'éducation nationale ?
Alors, juste avant d'aborder cette expérience qui a été conduite pendant 4 années, je vais faire un petit rétro-pédalage. Pour le coup, on se trouve sur Évron. Et j'étais principal adjoint pendant 2 années là-bas. Et il y avait, on va dire, une triangulaire de relations avec le tissu associatif d'animation jeunesse. C'était le proviseur de la cité scolaire, Jacques de Marolles. Il y avait un prof, alors je cite ces gens-là, mais il y en a plein autour, hein, c'est pas pour restreindre à cela. Et il y avait donc un prof de français du lycée professionnel qui s'appelait Gilles Caligny et moi-même. Et l'idée, c'était de se greffer à l'opportunité d'expérimentation de ce qu'on appelait le livret de compétences expérimentales. Alors compétences, c'est parfois quelque chose qui choque un petit peu, parce qu'on réduirait peut-être un jeune à certains acquis qui sont bien libellés à travers un référentiel, vaguement comme un référentiel métier ou d'entreprise. C'est pas que ça. C'est que finalement, ce qui se joue derrière ça, c'est regarder un jeune dans tout ce qu'il vit et de quelle manière il a acquis quelque chose. Et donc, on s'était posé la question, quelqu'un qui se trouve dans un club de sport, quelqu'un qui est musicien, quelqu'un qui, pourquoi pas, fait un stage, ou je ne sais quoi, de quelle manière on pourrait valoriser son parcours scolaire et dire, y a un petit quelque chose que l'on peut prendre en compte, sans parler que ça se traduise véritablement par une observation dans le fameux S3C, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, mais qu'on puisse peut-être mettre une ligne en pied de bulletin qui valorise sa démarche. Parce que finalement, derrière ça, je rejoins ce qu'a dit Régis Cortésero tout à l'heure, les antinomies peut-être entre l'éducation nationale, je ne veux pas dire le reste du monde, mais parfois. C'est-à-dire que l'éducation nationale s'est construite autour de l'idée de transmission d'un savoir. Donc il y a un maître et il transmet, ou une maîtresse. Et il transmet. Et puis l'élève reçoit. Et une fois qu'il a bien reçu, il est donc habile ou déclaré habilité, quelque part, à devenir un citoyen. Et puis, dans d'autres circonstances de vie qui sont peut-être moins formalisées, c'est un peu le faire pour apprendre. C'est-à-dire que je fais plein de choses, forcément, et j'en prends forcément quelque chose. Est-ce qu'on ne pouvait pas essayer de penser quelque chose qui valorise ? Et donc ça a été le point de départ de notre réflexion. Est-ce que dans nos outils éducation nationale, est-ce que dans les réseaux, est-ce que dans les relations que l'on a avec les partenaires extérieurs, on peut finalement s'enrichir les uns les autres ? Nous, de prendre une matière, mais ce faisant aussi, d'acculturer aussi à l'extérieur quel est le cadre de l'éducation nationale. Pour le coup, je reviens pour briller, parce que c'est pour ça que vous m'interrogez. Et j'ai commencé à dire plein de choses, sauf répondre à la question.
Mais c'est toujours bien d'avoir le background, comme on dit.
Voilà. Mais bon, c'était ça un petit peu l'origine des choses. Donc là, j'ai exercé donc à Port-Briet, donc au collège Misdon, pendant 4 ans. Et puis, quand on arrive dans un lieu pour travailler, on s'intéresse au projet, aux dynamiques, je dirais même à l'histoire du lieu. Parce qu'on n'a pas vocation à bouleverser tout l'existant. On s'y inscrit. On voit de quelle manière on peut peut-être impulser davantage sur un sujet, encourager, éventuellement freiner d'autres. Et pour le coup, dans mes premiers échanges avec Séverine Bruno, qui est cachée par là-bas, qui était CPE là-bas, donc au collège de Misdon, on avait des relations qui étaient déjà un petit peu établies avec sa coule de source et qui permettaient à nos collègues de l'extérieur de venir dans les murs, soit pour informer de programmes de vacances, soit pour donner aussi des thématiques de conférences du soir à destination d'un public large, notamment les parents des élèves, mais pas que. Et puis je me suis dit, mais à partir de cette opportunité-là, de rencontre, est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin ? Et donc on a essayé de voir quels étaient les objets éducatifs qu'on partageait. Ce qui est ressorti assez rapidement, c'était tout un travail autour des compétences psychosociales. Qui je suis, qui est l'autre, comment j'interagis, comment j'essaie de pratiquer une communication non violente. Et finalement, se rendant compte qu'on avait non seulement des objets communs, mais aussi des sensibilités, une culture, peut-être une manière de faire avec des points de résonance entre l'école et le tissu d'animation, on s'est dit finalement, il ne faut peut-être pas se priver que la collègue animatrice, elle vienne dans nos murs avec les équipes et puis qu'on construise quelque chose ensemble. Et c'est ce qu'on a fait. Donc,
ça consistait en fait en des actions sur le temps méridien, hein, si j'ai bien compris tout à l'heure, des ateliers, mais pas que.
Alors ça pouvait être méridien, mais ça pouvait être aussi carrément sur l'emploi du temps de l'élève, hein, où on avait des actions qui s'installaient à la place de faire des maths ou des arts plastiques ou je ne sais quoi. Eh bien, on avait un programme d'accompagnement de l'élève, de tous les élèves, sur ces thématiques de compétences psychosociales, et en associant des binômes. Et le binôme, il pouvait être éducation nationale, par des professeurs formés à ça, par des personnels de l'éducation nationale formés à ça, mais aussi par l'animatrice dont je parlais tout à l'heure. D'accord. Voilà. Alors, en anecdote quand même, quand on a essayé de densifier un petit peu l'expérience, je me rappelle avoir provoqué une réunion du soir, et il n'y avait que l'animatrice, il n'y avait personne en face du collège, sauf moi. Donc on y avait mis un vent, ce qui n'est quand même pas très beau. Oui. Donc, mais ce n'était pas pour accuser, encore une fois, ça s'est fait comme ça. Il a fallu un temps pour l'installer, et je rejoins ce qu'a dit Valérie, c'est-à-dire qu'au départ, la nouveauté, et je dirais que c'est valable pour chacun d'entre nous, face à quelque chose de nouveau de proposer, l'une des réactions, je ne vais pas dire systématique, mais fréquente chez beaucoup de gens, c'est qu'est-ce que je vais perdre dans ce qu'il va y avoir de nouveau ? Qu'est-ce qui va se rajouter à ce que j'avais déjà à faire ? Enfin, toutes sortes de questions qui sont plutôt négatives. Alors qu'on peut aussi, finalement, inverser cette lecture en disant « Bon, c'est nouveau, je vais essayer de ne pas trop stresser sur l'histoire, même si celui qui vous parle n'est pas toujours habile à ça, mais enfin bon, qu'est-ce que je pourrais prendre de ça ?» Et donc ça demande un temps. Le temps humain, ce n'est pas un temps urgentiste comme on le vit dans notre société, enfin, en tout cas j'ai ce sentiment-là, où chaque instant on a la révolution de la Terre entière. Non. Je veux dire, on a forcément des choses, il faut se satisfaire des petites avancées, elles sont parfois un peu frustrantes, mais si on les regarde d'une autre façon, c'est autant d'acquis qui nous permettent d'agir en humilité, mais surtout de regarder la richesse qui s'en extrait.
Ce que vous nous dites en somme, c'est pour avoir une vision sur comment peuvent évoluer ces pratiques, c'est prendre en compte le temps long au final.
Complètement.
Sortir du court terme dans lequel on vit voilà. Un peu en permanence, mais et réinstaller ce temps long dans l'éducation et les partenariats.
Et donc en complément de ça, c'est vrai qu'aussi les défauts qu'on peut avoir, alors qu'ils soient institutionnels ou qu'ils soient tout simplement liés à notre exercice professionnel, c'est qu'on se fait aussi des commandes à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a tendance à se juger, parfois se battre les côtes, d'un prétendu objectif qu'on n'aurait pas atteint. Mais si on regarde bien, une bonne partie de l'objectif, c'est nous qui l'avons défini. Donc si on se dit, ben voilà, on est bien content parce que, ben, vous voyez, jusqu'à hier, une partie d'entre vous, je ne vous connaissais pas. Demain, on se sera rencontrés, on aura passé un peu de temps ensemble. Si je regarde que ça, indépendamment de ce qui rejaillit de cette journée, ben, j'aurai donc cette richesse. Si je dis, c'est dommage, on est reparti, il n'y a pas eu de projet, ben, c'est notre façon de le lire. Voilà. Donc je dirais qu'il faut se satisfaire de ces choses-là, d'échanger facilement les 06, les mails, et après, de manière fluide, parce que finalement c'est ça, s'autoriser à la rencontre, et puis regarder finalement aussi les collectifs avec bienveillance, parce que c'est vrai que dans l'éducation nationale, que je connais peut-être un peu mieux que l'extérieur, on a aussi ces inquiétudes dont je parlais tout à l'heure, on a aussi ces sentiments de surcharge, on n'est peut-être pas prêt pour tout de suite, mais si on est prêt un petit peu pour maintenant, c'est déjà pas mal.
C'est déjà une belle avancée. Voilà. Merci Yannick Poirier. Je me tourne maintenant vers Cédric Maillet, donc directeur du centre social Le Nul Par Ailleurs à Cran. C'est une association un peu intercommunale, un centre de vie sociale, voilà. C'est une bonne définition. Quel lien du coup vous faites avec votre centre social, les activités que vous proposez, le lien que vous avez avec la jeunesse et l'éducation nationale? Est-ce que vous avez vous-même expérimenté cette interconnexion?
Alors, je vais essayer de faire court, mais des fois je suis très long, alors ça peut être le problème. Juste, nous, alors en fin de compte, nous on est effectivement une association intercommunale, donc sur notre territoire, pour faire très rapidement, en termes de présentation, sur Cran, il y a deux collèges et deux MFR. Alors après, il y a plein d'écoles maternelles et primaires, élémentaires, je crois qu'on dit, vous me reprenez hein, si je ne vais pas dire bêtises, avec qui on commence à travailler en fin de compte. Voilà, et plutôt ma collègue qui est référente famille. Donc nous, on a trois animateurs jeunesse qui travaillent régulièrement ou qui sont en lien directement avec les collèges et MFR. Alors c'est un travail de longue haleine, hein, c'est ce que disait Monsieur Poirier, ça ne s'est pas fait comme ça. La structure, elle a 24 ans et ça fait 24 ans qu'on a commencé à travailler avec les différents établissements scolaires. Alors après, sur différents axes, je ne vais pas tous les présenter parce que ça peut être très long, sur un axe autour de tout ce qui est atelier prise de risque, donc plutôt autour de la santé, donc où aujourd'hui on propose aussi en dehors des murs des conférences, ouverte aux différents collèges et MFR sur un niveau bien précis défini collectivement. Donc il y a tout cet axe-là qui a été travaillé au début ensemble avec les équipes pédagogiques et où nous on intervient. Alors on intervient sur des heures souvent de pas de cours, mais des heures où soit il y a des heures de permanence, soit sur des temps du midi, ça peut être aussi sur des temps du midi. Ce qu'on a évoqué là prochainement, et on teste, en fin de compte, souvent on teste, avec un ou deux établissements, on fait pas ça dans les quatre établissements. Là, ce qu'on propose à la suite des temps, de ces ateliers-là, c'est des temps d'écoute. Voilà, sur du facultatif, les jeunes reviennent parler ou pas. Voilà. Et puis après, on verra plus loin, donc on est aussi en lien avec la MDA, etc. Ça, c'est plutôt autour de la prévention. Après, il y a aussi, effectivement, sur la pause méridienne, des collègues qui y vont régulièrement. Donc, je ne vais pas prendre la place parce que j'ai ma collègue Adeline, donc je ne vais pas dire de bêtises, qui est dans la salle. Ils vont présenter les plaquettes, un petit peu comme ça se faisait avec Sa Coule de Source et puis le collège Port-Briet. C'est aussi un moment où on rencontre les équipes pédagogiques, mais aussi les CPE. Et puis les différents assistants d'éducation, je crois que c'est on dit comme ça, parce que souvent ça change. Et puis après, on a aussi d'autres projets. Alors, un projet qui fait lien, je dirais, c'est à Cran, on a la chance d'avoir deux professeurs d'un collège, entre autres le collège Vaunet, qui sont fans de robotique, qui ont lancé à un moment toute une dynamique. Et en fin de compte, cette dynamique-là, elle se continue en fin de compte au travers de la structure. C'est-à-dire que les jeunes, souvent, alors au début, c'était que le niveau 3e, je crois qu'ils faisaient de la robotique. Maintenant, ça va être 4e, 3e. Et nous, les jeunes, en fin de compte, certains jeunes du collège continuent à l'extérieur de travailler la robotique. Et ce qui fait que nous, on a encore des premières. Les jeunes qui sont en première sont encore chez nous.
Des ateliers autour de la robotique.
On a un atelier robotique en lien avec les deux professeurs qui portent, on va dire, l'association et ce projet-là. Et on participe aussi à la RoboRêve, donc c'est un grand temps fort à Cran. Mais en tout cas, c'est juste pour dire la continuité. Alors après, souvent, ce qui se passe chez nous, c'est que nous, les plus grands cadres, les plus petits. Donc nous, ça va de la 6e à la 1ère, hein, ce que je vous disais. Et puis nous, ils viennent tester. Hein. C'est voilà, ça marche pas, c'est pas grave. Hein. Faut justement saisir, utiliser l'échec pour que ça devienne une réussite. Donc après on investit dans du matériel, on se prête du matériel. Bon, c'est un exemple qui fonctionne super bien, mais ça s'est pas fait, ça se fait pas en une année. Hein. Ouais. C'est vraiment une relation de confiance. Alors après, on participe aussi aux AG justement, parce qu'ils ont créé une association. Voilà, c'est vraiment donnant. C'est un vrai partenariat. Donc ça, c'est un projet phare qu'on a. Après, juste. Bon, on a d'autres projets parce qu'en fin de compte, ça a permis d'être sollicité davantage. On a été sollicité il n'y a pas très longtemps par la MFR pour les accompagner sur un projet pour que les jeunes aient confiance en eux, aussi un projet d'intégration. Voilà, donc on n'a pas pu y répondre parce que par manque de temps.
Je suis désolé de vous interrompre, c'est pour c'est pour qu'on puisse avancer. En tout cas, vous êtes vraiment un acteur identifié. Au niveau des structures d'éducation nationale type collège pour travailler avec elles sur votre territoire.
Alors, sur notre territoire, oui. Mais ouais. c'est en fin de compte, c'est vraiment un travail de longue haleine. Et avec aussi un turnover chez nous aussi, mais aussi chez les équipes pédagogiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un changement, de toute façon, nous, deux semaines après, on y est, quoi. Voilà, on va se présenter, on présente ce qu'on fait et on a toujours un point d'appui. Si c'est pas le CPE qui part, on s'appuie sur le CPE. Si c'est le proviseur qui part, on s'appuie sur inversement. Voilà. Je pense que c'est hyper complémentaire, hein, que ce soit l'éducation nationale, l'éducation populaire. Je dirais trois choses. Je pense que c'est à chacun, qu'on soit dans l'éducation nationale ou l'éducation populaire, de faire évoluer sa pratique, bouger un petit peu les lignes, sortir de sa zone de confort. Après, moi, je ne rejette pas du tout la pierre sur les équipes pédagogiques, parce que je disais à Sébastien, là, qui est dans la salle, qui est animateur jeunesse aussi. Je ne sais pas si un animateur jeunesse, on le dirait, de faire, en plus de son métier, un projet. Je ne sais pas si aujourd'hui, il le ferait. Donc, c'est un peu ce qui se passe au niveau des professeurs, parce que des fois, c'est en dehors ou en plus des heures de cours. Donc, il faut aussi se mettre à la place de ça. Donc, il y a vraiment une méconnaissance des métiers et des fonctionnements. Après, ce qu'il faut voir, c'est la complémentarité au service et au service des jeunes ou des enfants. Parce que je parle beaucoup de collèges, mais je pense qu'au niveau des équipes d'école élémentaire, voire maternelle, il y a aussi des choses à faire. Voilà. Donc là, on est sur un projet justement avec une école élémentaire, mais c'est plus ma collègue au niveau des écrans. Et puis, je finis là-dessus. Je te redonne la parole.
Vas-y.
Que ce soit dans les deux sens, que ce soit les animateurs, n'hésitez pas à les solliciter, à rentrer dans les établissements scolaires, à vous présenter. Déjà, c'est un premier point, comme disait M. Poirier. Mais aussi aux équipes enseignantes, de solliciter aussi les structures d'animation jeunesse ou animation enfant, parce que je pense que c'est le même objectif, en fin de compte, mais travailler différemment, quoi. Voilà. Et là, je m'arrête parce que je pense qu'ils vont me couper la botte.
On a ce pouvoir. Merci. merci pour ce partage. Alors, Laurence Lebras, vous, à la CAF 53, vous avez aussi des dispositifs qui permettent aux jeunes aussi de mettre en valeur les compétences, et vous accompagnez aussi des structures jeunesse parce que des postes d'animateurs, par exemple, ça se finance, hein, ça se crée. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement les différents dispositifs que vous avez en place à la CAF pour ça?
C'est vrai que quand il a été question de cette table ronde sur la valorisation des compétences des jeunes qui sont accueillis à la fois dans des établissements scolaires et dans des structures jeunesse, je me disais, nous, en tant qu'institution, on a un rôle encore un peu différent. Quels sont nos leviers actuellement? Enfin, de quoi il serait intéressant de parler ici aujourd'hui? Et je pensais à la fois à un appel à projet qui est une bourse Ginov. Je ne détaillerai pas trop parce qu'on la connaît tous, elle dure depuis des années. On a eu beaucoup moins de projets de jeunes avec la crise Covid, mais l'idée, c'est de pouvoir accompagner des jeunes. Donc, à travers ces projets qui montent, on va être vraiment sur la valorisation des compétences des jeunes. Ils viennent les présenter devant des élus, devant des professionnels. Ça va être un sacré exercice aussi, oralement, il faut oser le faire. Et parfois, on a des jeunes de quartier en difficulté. C'est une sacrée fierté pour eux et pour leur famille de voir que la CAF a accordé une bourse. Après, d'autres partenaires font la même chose. Je pense à la MSA. On a aussi des collectivités qui ont des bourses comme ça au projet. Donc là, on est vraiment dans... Je me dis, avec ce genre de dispositif, dans beaucoup d'apprentissage, on apprend beaucoup en construisant un projet et beaucoup de valorisation de compétences également. On a aussi, alors là, c'est peut-être plus quelque chose de plus récent, la PS Jeunes, donc la prestation de service jeune, qui a été en fait un nouveau levier pour la professionnalisation en fait dans les structures jeunesse. PS Jeunes qui a été créée en 2020 par la branche famille. Nous, on l'a lancé, on voulait la lancer en 2020, peut-être en mars, avril, et évidemment avec la crise Covid, il a fallu attendre un an. Donc on est parti finalement un an après un certain nombre de caisses, mais ça fait rien, on a senti qu'il y avait quand même déjà un écho intéressant. On doit avoir quatre structures jeunesse où il y a de la PS jeune, je peux me permettre de les citer parce que presque tout le monde est là aujourd'hui. Donc on a le Nulle Part Ailleurs, le centre social, on a des communautés de communes, des Coëvrons, du Mont des Avaloirs. En Mayenne communauté, je ne sais pas, parce que l'animatrice, si, d'accord. Donc, on n'avait pas l'occasion de se connaître. Donc, l'idée de la PS Jeune, c'est quelque chose qui change beaucoup par rapport à ce qu'on fait dans les centres de loisirs. On est sur l'accompagnement de postes. Donc, on intervient sur du coût d'animateur, alors que sur les ALSH ados ou accueil jeune, on intervient à leur enfant. Donc on n'est déjà pas du tout dans les mêmes logiques, et c'est quelque chose d'intéressant pour les structures. On n'a pas la pression de mettre en place de l'activité pour avoir un soutien financier de la CAF. Là, on est sur du poste et ça change beaucoup la donne. On a eu l'occasion d'en parler sur des réunions d'un atelier jeunesse au niveau du schéma départemental des services aux familles. J'essaye de faire le lien avec tout ce qui existe aussi au niveau du département. On le fait tous en tant qu'agent de développement aussi sur les conventions territoriales globales qu'on signe tous les ans avec les partenaires, enfin à tour de rôle. Donc c'est quelque chose qui... L'esprit est tout à fait différent. L'esprit, c'est vraiment d'être dans de l'accompagnement de projets de jeunes, de favoriser l'engagement des jeunes, favoriser leur participation. Les faire participer aussi à la vie des structures, donc être dans des instances de décision ou prendre des responsabilités, donc ça c'est quelque chose d'important. Et l'idée c'est de faire émerger des tas de projets. Alors là ça rejoint aussi tous les parcours hein, de l'éducation nationale, des projets en termes de citoyenneté, des projets culturels, artistiques, de loisirs, enfin bon, toutes sortes de projets où on peut réaliser effectivement des apprentissages. Donc ça demande des évolutions aussi dans ces pratiques, c'est-à-dire peut-être revoir quand on est un service jeunesse ses horaires d'ouverture, peut-être travailler un petit peu plus le soir ou travailler le week-end ou avoir plus de temps d'ouverture pendant les petites et grandes vacances. Ça implique aussi peut-être d'aller vers des jeunes qu'on n'a plus l'habitude de voir ou qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et ça peut passer par justement des interventions qui vont être hors les murs. Et là, je fais le lien avec ce qui est notre sujet d'aujourd'hui, hein, les établissements scolaires qui sont sacrément importants, que les animateurs puissent aller vers les établissements scolaires, puissent faire par exemple en ville des actions en pied d'immeuble et puis en milieu rural peut-être proposer des structures itinérantes. On en aura un exemple ce soir, moi j'attends beaucoup de voir à la Bazouge des Alleux le truc à dos pour répondre à ces problématiques de jeunes qu'on ne voit pas ou qui sont isolés. Je prends mes petites notes pour voir si j'ai oublié autre chose. Je pensais aussi à tout l'attrait des jeunes pour le numérique, donc on va encourager vraiment les échanges entre pairs, notamment autour du numérique. Donc je pense que j'ai fait le tour. Le développement des partenariats, ça va de soi. Hein. Mmh. On ne travaille pas tout seul quand on est un animateur PS jeune. Donc on travaille avec les établissements scolaires, ils ont été cités. Mais ça va être aussi avec les services, par exemple, Info Jeunes, avec les structures Habitat Jeunes, avec les missions locales, avec les services de prêve, avec des médiathèques, avec des clubs sportifs. L'important, c'est de s'entourer de tout un réseau.
Oui, de vraiment tisser un peu la toile de tous ces acteurs et de réussir à les mettre en connexion, c'est tout notre sujet. Je vois que l'heure tourne, donc je vais très rapidement vous laisser la parole. Alors vous, Vincent Bonner, donc vous êtes aussi directeur de Pôle éducation et de loisirs à la PEP 21. Donc l'interconnexion un peu entre plusieurs acteurs jeunesse, c'est un peu aussi votre domaine, si je dis pas de bêtises. Est-ce que c'est une interconnexion qui fonctionne par chez vous, dans votre région, dans votre département? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait?
Merci. Oui, tout à fait. Ça fonctionne, mais il n'y a pas un réseau jeunesse comme en Mayenne, en tout cas, ce que je peux voir aujourd'hui. Moi, j'ai un passé donc dans l'éducation nationale. Enseignant second degré et université, je ne me suis pas présenté tout à l'heure. Et puis j'interviens depuis 20 ans, maintenant je dirige un service où il y a un centre social par exemple, des accueils de loisirs, des plateformes ressources handicap sur la Côte d'Or. Donc oui, effectivement, moi, dans ce qui a été dit, je pense à trois mots. D'une part le réseau, les spécialistes des réseaux disent que c'est trois choses, et je pense que vous l'avez en Mayenne, c'est l'intérêt commun. Ça a été dit à travers les discours, si on trouve un intérêt commun, c'est souvent l'enfance, son émancipation, on l'a et on travaille ça. Donc un réseau, c'est trois choses. Il y a pas mal de spécialistes qui ont dit ça. Intérêt commun, égalité de statut, c'est important pour une éducation populaire, par exemple, qui s'est toujours construite en marge, à côté de l'éducation nationale, mais pas au même niveau, faut pas rigoler quand même, les enseignants, on était au-dessus. Il y a quand même ça, égalité de statut et la rapidité d'action. Donc ça, c'est la première réflexion sur le réseau. Même si j'ai moins ressenti aujourd'hui la présence de la protection de l'enfance, par exemple, qui est peut-être là. La deuxième réflexion, c'est sur les temps que vivent les enfants. C'est-à-dire que les enfants, on va parler des mineurs ou des jeunes, vivent trois temps. À l'école, quand ils ne sont pas déscolarisés. Dans la famille, quand ils en sont partirés. Et puis, il y a tout ce qu'on appelle les lieux tiers. Alors, je ne vais pas rentrer dans les débats pédagogistes avec Philippe Mérieux, mais je renvoie aux travaux du HCFEA, au Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, allez voir ça, HCFEA, et regardez tous les lieux tiers, c'est le centre social, le club de sport, tout ce qui fait que les gamins ne sont pas à l'école ni dans la famille. L'école, c'est le lieu le plus égalitaire. C'est comme ça. Même si on travaille un peu différemment, dans un quartier sensible, à un centre-ville un peu huppé, ou en milieu rural, je ne vais pas développer, avec moins peut-être de mobilité ou de services publics. La famille, c'est très inégalitaire. Quant au tiers-lieu, au lieu tiers, il faut faire ce lien dont on parle. Alors, je repense à ça parce que dans chaque institution et dans chaque formation, les personnes vont avoir un vocabulaire différent. Ça a été dit, on va avoir un vocabulaire différent à l'éducation nationale, à l'IRTES, quand il y a la formation des éducateurs, dans les organismes de formation, Franca, CMEA et autres, pour ce qui est de l'animation. Vocabulaire, on va avoir des diplômes différents, on va avoir des références différentes, donc une vision de la prise en charge différente. Je ne vais pas insister sur ce que vous avez déjà très bien dit, sur les compétences, sur les choses à croiser et autres, mais une dernière chose sur les compétences de l'enfant, puisque c'est l'objet de la table ronde. Oui, effectivement, il faut se mettre ensemble, il faut se connaître, il y a tout ça. Et les quelques discussions que j'ai eues aujourd'hui font que ce n'est pas institutionnalisé. Ça va être au bon vouloir d'un tel. Il s'en va, il faut recommencer. Et c'est très long de construire et ça se détruit très vite. Donc effectivement, les pistes peut-être d'action, puisque je finissais par ça tout à l'heure, c'est d'instituer certaines choses, que ce soit éducation nationale, éducation populaire. Et puis il y a une troisième dimension qui sont les administrations, les institutions qui donnent des moyens effectivement pour faire ça. Hein. Sinon, on ne pourrait pas avancer. Donc en gros, un animateur qui termine en périscolaire à 8h45 avec un enseignant qui arrive à 9h, etc. Il y a ceux qui travaillent ensemble, qui font des projets, qui vont ensemble en classe découverte, etc. Puis d'autres qui ne se voient jamais ou qui se reprochent des choses, parce que quand on ne se voit pas, c'est normal. Idem pour d'autres, un centre social qui va être à côté d'un collège avec qui ils ne vont pas travailler. Et donc ça va dépendre des personnes. Ce n'est pas le cas ici, donc tant mieux. Donc il y a des choses à instituer. Et instituer les choses, c'est sur l'objet commun, l'émancipation, sur tous les exemples que vous avez décrits. Vous citiez les compétences psychosociales. Ben, que ce soit sur ça, que ce soit sur le développement de l'enfant, savoir que le gamin a un pic d'attention à 11h, qu'après, il y a une dépréciation du cerveau à 13h et quelques, pour faire du sport, c'est plutôt 16h. Le développement de l'enfant, je vois, il y a tous les âges dans la salle. Bon, des fois, on l'a oublié, hein, en étant passé en formation, il faudrait des piqueurs de rappel, peut-être, là-dessus. Et puis, tous les projets communs que vous avez dit, mais l'institutionnalisation, je sais, François Hélan disait que vous travaillez sur une charte cet après-midi, je crois. La charte est intéressante, mais on ne peut qu'encourager les institutions à travailler. Malheureusement, sur la formation, c'est plutôt le week-end, parce que tout le monde travaille la semaine à des horaires différents. Ou alors, il faut faire une journée off. Donc, il y a des pistes là-dessus, mais en tout cas, flécher des choses et travailler pour l'objet commun, qui est le gamin, ou l'usager qu'on prend en charge, c'est vraiment le but. Ouais.
Merci Vincent Bonner. Alors j'avais prévu toute une deuxième partie, on allait continuer d'échanger entre nous, mais je vois que le temps file et je trouverais ça dommage pendant une table ronde que vous soyez tous assis là à nous regarder parler et de ne pas pouvoir du coup échanger avec vous. Donc ce que je vous propose, c'est peut-être ensemble d'essayer de voir les leviers qui sont possibles sur le territoire et aussi les freins, parce que s'il y a des leviers, il y a aussi des freins à côté qu'il faut lever, peut-être, justement. Donc voilà, je vous invite à prendre la parole, soit pour poser des questions, soit pour partager des expériences aussi de transversalité, d'interconnexion que vous avez, vous, dans votre milieu professionnel, et ce qui fonctionne moins bien, ce qui reste à améliorer, voilà. La parole est à vous. Il y a François là-bas qui va se balader avec un micro. On va appeler ça un bâton de parole, parce que l'idée aussi, c'est de réussir à récolter par l'enregistrement vos remontées d'expérience ou vos témoignages.
On m'entend, c'est bon. Donc, moi, je viens de l'Huisserie, la commune en première couronne de Laval. Pour parler des leviers et des freins, par exemple, nous, les leviers qu'on utilise sur la commune, c'est plutôt les rencontres, l'échange, la base, ce qui va permettre aussi de construire des projets ou en tout cas d'enlever les incompréhensions ou en tout cas de mieux comprendre les attentes, les besoins des différents acteurs autour de la jeunesse. Ça me paraît assez important et c'est partagé par l'ensemble des personnes qu'on a rencontrées, que ce soit de la petite enfance vers la jeunesse ou aussi pour les familles, parce qu'il y a cet axe-là qui est aussi à réfléchir et à faire. Et donc dans les leviers, c'est vrai que c'est inévitable, incontournable l'échange, et ensuite de le formaliser, ça engage un peu plus chacune des parties à continuer et à agir dans le temps ou de façon plus ponctuelle, mais le formaliser, ça aide aussi à concrétiser les choses. Et dans les freins, là on le rencontre nous sur l'espace jeune par exemple, c'est le turnover. Donc nulle part ailleurs, il y en a évoqué un petit peu le problème. C'est très compliqué. C'est un public qui est plutôt invisible. Dès qu'on bascule après 15 ans et vers les 20 ans, 25 ans, où ce public-là, bah, si, s'il n'y a pas une accroche, s'il n'y a pas un animateur ou quelqu'un en tout cas de référent pour le jeune, tout de suite, ça devient très compliqué de mettre des choses en place. Nous, en tout cas, on rencontre ces difficultés-là puisque l'animatrice référente est partie. Et on sent, c'est un axe, hein, redynamisation de l'espace jeune, c'est un axe de travail. Alors qu'on ne peut plus parler de projet, en tout cas, on parle de projet un peu one shot, parce que à un moment donné, s'il n'y a pas de jeunes, on ne fait pas. Les élus peuvent faire autant de commandes qu'ils veulent, on ne fait pas avec de l'invisible. Voilà. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est un des freins qu'on rencontre. Et puis après, c'est parfois sur des freins matériels, de temps, des freins plus classiques. Mais le frein, l'humain, on ne peut pas le remplacer. Et ça, c'est un sacré frein. Voilà. Après, pour contrer ça, les leviers, c'est aussi s'appuyer sur l'existant, donc les forces vives, que ce soit associatif, différents animateurs aussi qui peuvent prendre le relais, qui permettent aussi une continuité. Et aussi le travail au fil des années. J'entendais aussi ce qu'ils disaient au niveau du par ailleurs, et je trouve ça très intéressant comme démarche. On essaie de le mettre en place, c'est-à-dire notamment sur la lecture, donc sur les RPE, là, les relais petite enfance, on va amener l'enfant vers la médiathèque, donc sur des petits bouts de lecture, ils appellent ça, avec aussi là l'intervention de bénévoles. Ça permet donc à l'enfant d'y venir dans un contexte précis, et puis ensuite de le renouveler avec l'accueil de classe par l'école. Donc là, on fait le lien aussi avec les écoles du territoire. Il y a une continuité aussi avec le centre de loisirs. Et puis ensuite, la continuité avec l'espace jeune, où ça, ce n'était pas forcément fait avant. Alors malgré l'absence de l'animatrice jeunesse, ça se provoque parce que voilà, on met en relation les personnes. Mais c'est juste se dire, j'aimerais bien le faire. Qui c'est le référent, ou s'il n'y a pas de référent, est-ce qu'on peut le faire quand même? Donc, des fois, c'est juste faire du lien, donc se mettre autour de la table ou se passer 2-3 coups de fil. On parlait tout à l'heure des roles ou je sais pas quoi. Voilà. Mais en tout cas, la personne clé qui permet de débloquer la situation. Et ça joue. Et aussi ensuite de l'amener sur des actions plus famille, où là, on va être sur des mercredis après-midi, des samedis matins, où le parent lui va pouvoir accompagner. Et le rôle du parent, c'est aussi la continuité entre de la petite enfant jusqu'à la jeunesse vers l'adulte. Parce qu'on parle aussi de citoyenneté, c'est comment aussi le rendre acteur pour aller un peu plus loin. Voilà, donc des leviers, des freins, nous, sur notre territoire, c'est un peu cela. Voilà.
Merci pour ce partage. Alors, une chose moi qui m'interpelle dans ce témoignage, c'est peut-être justement dans la continuité, cette non-existence. On peut m'arrêter si je me trompe, mais de temps, comme vous le disiez, un peu institutionnalisé, de temps formel pour après assurer cette continuité entre les différentes structures. C'est peut-être un peu ça, comme pour les projets des professeurs. On s'appuyait sur les personnes rôles, c'est le porteur de projet, mais c'est aussi un peu du temps personnel que l'enseignant va consacrer à du projet. Est-ce que c'est pas justement un aspect à travailler, ce temps un peu institutionnel dans ces temps-là? Mais je parle. Est-ce qu'il y a d'autres partages d'expériences, d'autres remarques?
Moi j'avais une réflexion autour du temps de l'enfant justement. Parce qu'il y a quelques années, lors de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, on avait ces espaces de partage, de travail entre les différents acteurs de l'éducation nationale et des communes, pour ce qui est du premier degré notamment, et où les acteurs associatifs notamment étaient présents et impliqués. Et ce sont des espaces qu'on a perdus au fur et à mesure du temps, ce que je trouve dommage, parce qu'effectivement, on a tous et toutes, en tant qu'éducateurs, pour objectif d'aider les jeunes à se construire en tant que citoyens et puis leur permettre petit à petit de faire société. Et c'est de ce point de vue important que les réflexions soient partagées. Par contre, il y a une chose qui me gêne un petit peu quand monsieur le principal tout à l'heure parlait de travailler les compétences psychosociales pendant les heures à la place des heures de mathématiques. Je me demande si on ne dessert pas des élèves, notamment les plus fragiles, lorsqu'on substitue des enseignements disciplinaires qui sont absolument fondamentaux, alors que peut-être que les compétences psychosociales, le travail autour de l'empathie, du vivre ensemble, ils se travaillent en continuité sur tous les temps de l'enfant. Et de mon point de vue, le temps scolaire le permet dans une dimension collective, lorsqu'on on permet aux élèves de justement apprendre ensemble et vivre ensemble avec, pour ce qui est de l'école ou du collège, un objet de savoir qui pourra aussi d'ailleurs se réapproprier dans d'autres contextes, sur d'autres temps.
J'ai pas la prétention de donner une réponse, dire arrêter à ce que vous avez dit. Est-ce qu'effectivement il y a un gain ou une perte, je ne sais pas. Mais l'image qui me vient, ça peut-être en lien avec ma formation d'économiste, à l'origine, c'est que quand on mesure le niveau de développement d'un pays, comme on mesurerait les acquis des élèves, on s'intéresse au PIB. Ça, c'est plutôt un regard porté par les économistes. Si on s'intéresse à ce qu'est la qualité, donc c'est moins quantitatif, d'une société, on va plutôt s'intéresser à un IDH ou d'autres choses, c'est-à-dire un indice de développement humain, et qui prend en compte des éléments qui, pour le coup, dépassent une stricte production. Si on s'attache aux élèves, aujourd'hui, il est vrai, probablement, les évaluations le montrent, qu'il y a peut-être une perte en ligne sur certains acquis fondamentaux, de français, de mathématiques, de lecture éventuellement. Mais en face de ça, quand on regarde bien le chemin de ces jeunes, alors ceux qui sont là actuellement, on ne peut pas trop regarder ce qu'ils vont devenir parce qu'ils sont dans leur construction. Mais ceux qui sont passés par là dans les 10 ou 15 dernières années, ils réussissent leur insertion en société. Et ils la réussissent peut-être aussi avec d'autres atouts que grâce au travail éducatif, à la coéducation, à la coopération interservices, on a pu mettre en œuvre. Et là, pour le coup, j'interroge les uns les autres d'entre vous. Est-ce qu'on nous a sensibilisés petits aux émotions, au fait qu'elles nous régissent, au fait qu'on évite peut-être de se laisser emporter par elles? Ce sont des éléments extrêmement importants pour la conduite d'une vie. Et je dirais qu'accéder au savoir pur, pendant très longtemps, l'école était peut-être le seul lieu où on pouvait y accéder. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc avoir une petite perte, je dirais, sur la capacité à résoudre une équation du second degré à tel niveau, ce n'est pas si grave que ça dans la vie, il me semble, mais ce n'est que mon avis.
Je voudrais juste rajouter que la prise en charge globale en fait, de l'élève, elle est aussi très, très intéressante. Après, voilà, ça amènerait d'autres discussions, mais... Les neurosciences avancent aussi beaucoup sur et sont capables aussi de donner des éléments sur le fonctionnement du cerveau lors de la mémorisation, des apprentissages. Donc y a, voilà, derrière, on pose plein de choses. Moi, je sais qu'au Collège Jacques Monod, dernièrement, on a fait une formation destinée à tous les personnels, donc personnel enseignant, mais aussi personnel des assistants d'éducation, les AESH qui sont maintenant dans les classes et qui font un travail particulièrement formidable, hein, et qui sont là aussi pour compenser, hein, les besoins des élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc voilà, effectivement, on a cette analyse, on peut avoir cette analyse, mais d'autres analyses sont possibles avec une vision plus globale. Et je rebondirai sur ce qu'on a dit tout à l'heure, le temps. Aujourd'hui aussi, on parle de la formation tout au long de la vie. Donc oui, mais il y a plein de choses qui sont possibles aussi. On pourrait parler de l'orientation des jeunes. Aujourd'hui, l'orientation, elle n'est pas figée. C'est pas parce qu'en troisième, eh bien, on va vers la seconde générale technologique ou la seconde professionnelle que ça bouge beaucoup. On parle de passerelles, on parle... Il y a aussi des structures. L'éducation nationale est aussi chargée de suivre les jeunes au moins jusqu'à 18 ans avec l'obligation de formation. Il y a des structures, la PSAD, la Focale, enfin voilà. Bon, mais voilà, moi j'ai une vision beaucoup plus globale et donner le temps au temps aussi. Alors par contre, ce qui est hyper important et primordial aujourd'hui, et c'est ce que fait l'éducation nationale avec les missions locales, avec toutes les structures qui accompagnent aussi dans la formation les jeunes, parce que c'est de ne pas perdre de vue le jeune. Alors attention, je ne dis pas qu'on ne les a pas, que certains passent pas entre les mailles du filet, mais quand même, on a un suivi, hein, et ça c'est important. Et vous aussi d'ailleurs, en tant que acteur, moi je sais que voilà, juste je prends le temps d'expliquer un petit peu ce qui s'est passé là sur l'orientation des troisièmes. Aujourd'hui, on a 3 temps d'affectation. Il y en a un en juin, il y en a un en juillet. Et il y en a un en septembre. Et les éducateurs, l'équipe d'animateurs donc, de la Maison Bleue sont venus me voir en me disant « Mais Mme Créton, là, il y a des jeunes, ils ne savent pas, qu'est-ce qui se passe ? Ils n'ont pas d'affectation ?» Non, non, effectivement, ils n'ont pas d'affectation, mais on est en contact avec eux. Et le troisième tour va avoir lieu le 7 septembre. Mais c'est vrai que ce sont des jeunes qui commencent leur formation bien vers la mi-septembre. Mais, et j'ai trouvé ça très intéressant que les animateurs se disent « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et là, je les ai rassurés. Je leur ai dit « Mais on les a, on sait. Les affectations sont demandées. On attend les résultats. » Et ensuite... Donc, on est quelque part des veilleurs, des veilleuses. On lance des alertes. Et ça, je crois que c'est important. Voilà.
Oui, et 2 mots sur votre observation. C'est que quand vous faites allusion au rythme scolaire, effectivement, à ce moment-là, ça a permis à la communauté éducative de discuter. Et c'est pareil sous la contrainte, si je puis dire, dans les cités éducatives, dans le programme de réussite éducative, etc. C'est quand ça tombe du dessus. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous pouvez discuter dans un réseau jeunesse et peut-être proposer, on ne sait jamais. Puis la deuxième observation, donc c'est plus facile sous la contrainte, on est obligé de se réunir, on le fait. Mais effectivement, c'était des sacrés moments pour discuter ensemble sur les acteurs locaux éducatifs qui ne se connaissaient pas. Puis la deuxième observation, c'est ce qui se passe dans les pays nordiques. Alors c'est pas psychosocial pour le coup, mais c'est social, c'est-à-dire que ce sont les parents qui ont placé en premier critère d'évaluation des enfants la compétence sociale. Vous y allez, vous voyez en termes de handicap, des gamins, on les attend. S'il faut qu'ils aillent d'un point A à un point B, ça mettra plus longtemps. Bon, d'accord, mais ça se fait comme ça. Et c'est cette première compétence-là. Donc effectivement, pour travailler ensemble, qu'est-ce qu'on met en intérêt général, en compétence des enfants, l'émancipation, l'autonomie de jugement, la compétence sociale, etc. Ça, c'est un vrai enjeu de définir ça en tracteur, parce que sinon, on a des critères bien définis, notre vocabulaire, et voilà, qu'on repart dans les institutions, quoi.
Alors, est-ce qu'il y a encore peut-être des remarques, des choses à dire ?
Donc moi, je suis principal de collège et puis je voudrais illustrer justement les leviers et les freins à partir de 2 expériences qui ont eu des destins assez différents et qui vont nous montrer que pour pouvoir réussir, il faut certainement avoir une démarche de pas à pas et aussi d'être mesuré dans nos attentes, de savoir calibrer un projet qu'il ne soit pas trop ambitieux, parce qu'il n'y a rien de pire pour les jeunes qu'un projet qui n'aboutit pas. C'est extrêmement déceptif pour eux. On a eu une première expérience autour des éco-délégués sur le territoire, en lien avec la communauté de communes et différents établissements, qui était ambitieux. On a essayé pourtant dès le début d'être attentif et d'en réduire la voilure de façon à ce qu'il aille au bout. On était beaucoup autour de la table, peut-être trop. Peut-être qu'aussi un des leviers pour démarrer, c'est de pas être trop nombreux pour remonter les partenariats. Et parce que finalement, ça a bien démarré. Et puis, la difficulté de coordonner les calendriers, notamment, hein, on le redit tous, c'est toujours une difficulté de pouvoir coordonner nos calendriers, nos temporalités qui sont très différentes, fait que les temps suivants n'ont pas pu se mettre en œuvre, malgré le travail réalisé au sein des établissements. Mais le temps de valorisation qui devait aboutir à une rencontre en fin d'année n'a pas eu lieu. Hein. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a vraiment déçu les élèves et qui est frustrant sur ce projet. Et à rebours, je voudrais parler d'une expérience positive, bien évidemment aussi, puisqu'on est là pour parler autant des freins que des leviers. Là, pour le coup, qui a été plus modeste dans sa construction, dans la mesure où c'est un partenariat simplement entre 2 structures, le collège et l'autre association, pour ne pas la nommer, autour d'un projet radio, qui, pour le coup, a été construit et formalisé. Les temps ont été construits dès le début. Le partenariat a été conventionné. Et puis, on a travaillé très vite aussi à la valorisation des élèves, puisque mener un projet à son terme, c'est aussi permettre la reconnaissance à l'élève des compétences qu'il a pu développer, hein, puisqu'on parlait tout à l'heure d'acquis. Il est important de rappeler que les compétences, c'est comment je mobilise des connaissances, comment je mobilise des compétences dans une situation d'apprentissage. Donc, ça valorise bien l'élève en ce sens que ça lui montre ce qu'il est capable de faire, ce qu'il est capable de mobiliser. Et nous, le choix qui a été fait, hein, ça a été effectivement, alors également au niveau du bulletin scolaire, sans passer par une évaluation, mais on a quand même validé des compétences qui ont été travaillées donc en lien entre Valentin, en l'occurrence, et l'enseignant, de façon à ce que l'élève voit un aboutissement concret du projet qui a été mené, même si celui-ci ne s'est pas fait dans la classe, mais bien hors la classe. Voilà, et je fais j'en profite aussi, un petit parallèle par rapport à la notion de parcours éducatif et de savoir comment est-ce qu'on peut valoriser les expériences des élèves qui se sont passés hors établissement scolaire. Alors même si pour le moment ça va que dans un sens, c'est pas co-construit, c'est vrai que nous on a construit un outil de valorisation des parcours éducatifs qui s'appelle le rapport d'étonnement, qui est transférable dans les quatre types de parcours et qui... est approprié par les élèves et qu'il peut réutiliser pour valoriser ses expériences hors établissement, c'est-à-dire son engagement en tant que jeune sapeur-pompier volontaire, en tant que jeune officiel dans une structure sportive ou au sein d'une troupe artistique. Voilà ce qui lui permet aussi de valoriser ses expériences personnelles dans le cadre de l'oral du DNB à travers la présentation de son parcours qui est individuel au-delà de l'offre éducative que nous, on propose. Je vous remercie.
Merci pour ce témoignage. Alors, je vois qu'on arrive à peu près à l'heure de notre table ronde. On peut peut-être encore prendre une remarque, quelque chose de quelqu'un.
Juste, je pense, moi j'étais là il y a, je ne sais plus quand ça a commencé, François, 6 ans, 7 ans ? 7 ans, ok. Est-ce qu'on peut faire un tout petit jeu ? Est-ce que les gens qui viennent de l'éducation nationale peuvent lever la main ? Au ministère de l'Agriculture, c'est pareil. Hein, voilà. Eh bien, en tout cas, il y a 7 ans, je pense qu'on aurait fait le même jeu. Il y avait peut-être 3 fois moins de personnes. Et je pense que ça, c'est un point hyper positif par rapport à cette rencontre. Voilà, je tenais à le dire parce qu'il y a un gros travail de fond et ça montre aussi cette temporalité là qui met du temps aussi à se mettre en place quoi. En plus, on a chopé un truc entre temps qui s'appelle le Covid, voilà, qui nous a un peu freiné dans l'élan. Donc merci à François puis à tous ceux qui ont contribué à ce temps.
Merci. Alors on a une toute dernière intervention.
Alors, puisqu'on parlait du ministère de l'Agriculture, nous, on en vient. Donc, moi, je suis professeur animateur d'éducation socioculturelle. Et c'est quelque chose d'assez rare. Et en fait, voilà, quand on parlait de levier, nous, notre levier essentiel, c'est les programmes et les choix politiques et les choix éducatifs. Et donc, on travaille essentiellement sur du projet. Donc, ça veut dire que systématiquement, les élèves vont devoir rencontrer du monde, sont amenés à rencontrer du monde. Et ça change tout. C'est-à-dire que ça, si ça disparaît aujourd'hui, eh ben, on n'a plus cette dimension qui existe déjà chez nous, en fait. Donc il s'est passé des choses très fortes chez nous, des fois. On avait à un moment donné ce qu'on appelait les projets d'utilité sociale, où des élèves de BEP devaient construire des projets d'utilité sociale. Donc forcément, ils étaient amenés à aller rencontrer des partenaires, à créer eux-mêmes leurs partenaires, à créer leurs projets, à faire le choix, à faire la conception, à les réaliser, à évaluer leur action. La boucle était bouclée. Et là, c'était quelque chose d'extraordinaire pour eux. On parlait de reconnaissance, de valorisation, elle était faite systématiquement. L'échec pouvait exister, mais c'était un vrai apprentissage. Voilà. Alors aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions parce qu'on a beaucoup de programmes qui virent vers des pratiques individuelles et qui cassent toute cette dimension collective, partenariale. Et voilà. Donc, mais allez voir un petit peu ce qui se passe du côté de l'agriculture, parce qu'il y a encore des choses qui sont faites, dont nous on sait la richesse qu'elles peuvent apporter par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer là aujourd'hui, je pense. Voilà.
Merci pour ce partage. Je pense que ça peut, du coup, ça peut en inspirer de plus. Moi, je vais aller voir. C'est clairement, ça a l'air clairement très inspirant. Ben, je pense qu'on a, on a fait le tour. De toute façon, le timing est dépassé. Merci à tous pour votre écoute. Merci à nos différents intervenants. Merci à vous d'être intervenus également.